qu'il me revient de vous présenter Christian Grataloup, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir vous consacrer cette séance. Je vois que son titre a changé par rapport à ce qui était annoncé, mais c'est encore beaucoup plus beau, beaucoup mieux, beaucoup plus poétique. Donc merci beaucoup. Il est essentiel que l'histoire et la géographie, ces deux sœurs siamoises, continuent à cheminer de concert, que les géographes aient toujours un regard dans le rétroviseur, celui de l'histoire, et que les historiens se penchent sur les localisations, les répartitions, et conservent surtout le goût de la cartographie, le moyen d'expression privilégié des géographes, fort heureusement, et Christian va vous le démontrer dans un instant, de nouveau en pleine lumière. Dessiner une carte est le béaba de la géographie, qui tente d'expliquer ce que cette carte représente, de faire surgir le génie des lieux et d'expliquer les frontières de quelque nature qu'elles soient. C'est à peu près ce qu'écrit Élisée Reclus, qui aurait pu être élue au sein de notre académie, mais je pense que ses options politiques ne l'auraient peut-être pas permis à l'époque. Ce qu'écrit Élisée Reclus dans sa préface « L'homme et la terre », de « L'homme et la terre », 1905, je le cite, « Vu de haut, dans ses rapports avec l'homme », avec un grand H, « la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. » Pourquoi, dans ces conditions, une grande partie des intellectuels et du grand public français continuent à croire que la géographie n'est en quelque sorte qu'une roue de secours de l'histoire, une science annexe et dont on pourrait aisément se passer. Christian Grataloup va aujourd'hui tenter de vous démontrer le contraire. Ancien élève de l'ENS de Cachan, agrégé de géographie, il a enseigné d'abord dans le secondaire, puis à l'Université de Reims, avant de devenir professeur en 1998 à l'Université Paris-Diderot, anciennement Paris 7. Intéressé par la didactique, ce qui est la signature d'un vrai normalien, et ce qui est devenu rare aujourd'hui, il a travaillé au début de sa carrière sur l'épistémologie de la géographie et sur les modélisations, la mondialisation, avant de se passionner pour la géohistoire. Cette fusion intime de l'histoire et de la géographie, imaginez naguère, le mot, je crois, est de lui, par Fernand Braudel, je parle sous ton contrôle, je crois que c'est lui le premier à l'avoir utilisé, pour qui elle était une évidence. Notre compagnie avait salué ce tournant en lui accordant à Christian, en 2008, le prix Jean Saint-Denis pour son livre « Géohistoire de la mondialisation, le temps long du monde ». Il avait déjà publié en 1996 « Lieux d'histoire, essai de géohistoire systématique ». Depuis, il a multiplié les ouvrages et les atlas, tous couronnés de succès, voire d'un très grand succès. L'Atlas des migrations en 2008, un Atlas historique mondial en 2019, un Atlas historique de la France en 2020, Atlas historique de la Terre en 2022. Et récemment, avec notre confrère de l'Académie des sciences, Pierre Léna, un Atlas historique du ciel, tous ces atlas magnifiques, publiés aux éditions des Arènes, notre voisine de la rue Visconti. Vous l'avez compris, Christian Grataloup est convaincu que l'on ne fait pas de bonne géographie sans histoire, et il milite pour réhabiliter la cartographie chez les historiens. Je vous recommande enfin de lire demain matin, au petit déjeuner, son essai intitulé « Le monde dans vos tasses, trois siècles de petit déjeuner 2017 ». C'est un chef-d'œuvre, et sans plus tarder, je lui cède la parole.
Merci, Monsieur le Président, et Monsieur le Chancelier de l'Institut, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Vice-Président pour l'année, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames les Académiciennes, Messieurs les Académiciens, Mesdames, Messieurs, j'ai rien oublié. Je vous remercie évidemment, et je remercie Jean-Robert en particulier, de votre invitation qui me donne l'occasion de parler de ce mariage, mais qui est plus qu'un trait d'union, et plutôt que le trait d'union histoire-géographie, celui entre les deux mots, c'est effectivement le terme inventé par Fernand Braudel en 1942 de géohistoire, terme que le plus souvent les historiens ont laissé un peu en déshérence, et que les géographes ont repris depuis une trentaine d'années. Donc c'est un mot que je vais souvent prononcer. Alors, je voudrais, étant donné que nous ne sommes pas tous historiens géographes ici, rappeler simplement une petite évidence qui est liée à, non pas la géo-histoire, mais l'histoire géo. C'est-à-dire, et je mets une carte de Vidal-Lablache, dans son nom républicain, qui est une carte identitaire, pour dire que nous avons une, rappeler cette chose que nous savons tous, que nous avons une particularité française qui est l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans une même discipline. C'est une particularité extrêmement française, hein, il y a très très peu de nations au monde qui ont l'histoire géo comme discipline. Il existe de l'histoire, il existe plus ou moins de la géographie, mais elles ne sont pas du tout associées. Tandis qu'en France, on a cette habitude, et quelques pays ont été influencés par la France et l'ont recopié, mais la plupart du temps, ne serait-ce que tous nos voisins d'ailleurs, n'ont pas cet enseignement particulier. Alors, ce serait une autre conférence que je ne vais donc pas développer, mais il y a là une dimension extrêmement importante qui est largement identitaire, c'est-à-dire la façon dont est fabriquée la nation France à partir du territoire plus qu'à partir du peuple. Hein, ce n'est pas une nation-peuple, comme l'Allemagne, c'est une nation-territoire. Et de fait, l'identité, depuis fort longtemps, je peux remonter à ce qu'on appelle souvent la première carte de France, hein, qui date de 1525, même si on n'a plus d'exemplaires de cette date. Et cette carte a accompagné, dans les collèges de jésuites, d'oratoriens, depuis longtemps, et bien avant la Révolution française, la lecture de la guerre des Gaules, c'est-à-dire à la fois l'apprentissage du latin et l'apprentissage de la nation, et qu'il se faisait à l'aide d'une carte, puisqu'il s'agissait de suivre les périples de Jules César. Donc, on a quelque chose d'extrêmement ancien, qui a 4 siècles pour le moins, de couple, mais ce qui ne signifie pas que les deux démarches sont ensuite scientifiquement liées. Ce qui n'a pas été sans problème, je peux le dire en tant que spécialiste de géographie historique, discipline extrêmement, sous-discipline extrêmement peu présente en France, à la différence d'autres pays comme le Royaume-Uni, parce que la répartition scolaire, au moins depuis l'époque de Jules Ferry, s'est faite de manière extrêmement élémentaire. L'histoire, c'est le passé, la géographie, c'est le présent. Et à l'école, c'est comme ça. Donc, de ce fait, l'idée de faire de l'histoire avec de la géographie et réciproquement, ou de faire même des enseignements qui ne sont qu'un, c'est quelque chose qui a été, reste difficile en France. Voilà, je tenais à ce petit préambule pour expliquer ce qui peut paradoxalement apparaître, alors que nous sommes justement dans cette liaison, comme quelque chose qui est plutôt une déliaison. Alors, au contraire, je voudrais essayer de vous convaincre que faire de l'histoire des humains, c'est nécessairement faire de la géographie. Alors, je vais le faire en deux temps, et ensuite, je vais essayer de le développer par quelques exemples. En deux temps, parce que pour moi, c'est une question tout à fait générale, qui est très ancienne, et dont le fait que l'on ne l'ait pas autant pratiqué m'a toujours étonné. Et puis, d'autre part, dire que c'est quelque chose qui s'est accentué, comme le titre d'ailleurs l'indiquait, qui s'est beaucoup accentué depuis quelques temps. Et je voulais dire, de tout point de vue-là, Jean-Robert a eu la gentillesse de rappeler mes récents atlas historiques, j'ai effectivement beaucoup de chance, c'est que je suis tombé au très bon moment, c'est-à-dire au moment où on a un besoin, une demande considérable, entre autres de cartographie historique et d'atlas historique, dans la presse aussi bien que dans les publications ou en ligne, et que, ma foi, d'être porté par ce mouvement, c'est particulièrement réjouissant. Donc, mon idée est très simple, elle part d'un constat élémentaire que je vais développer. C'est d'une part, il n'y a qu'une seule humanité, je ne vais pas le développer, c'est une évidence, donc je prends une carte où tous les points sont de même type, hein. Il n'y a que des sapiens sur Terre. Et cette humanité est extrêmement fractionnée en une multitude de sociétés. Évidence simple, tellement évidente qu'on ne s'interroge pas là-dessus. À la différence d'autres types d'espèces vivantes, nous avons ce fractionnement en multitude de sociétés très diverses, je montrerai la carte des langues dans un instant, qui fait que, j'aime bien résumer ça par la formule un singulier pluriel, ce pluriel est effectivement celui d'une seule espèce, mais pourquoi cette diversité ? Eh bien, je crois que pour cela, je vais me mettre sous le patronyme de Babel, on a, c'est-à-dire tout simplement d'une grande dispersion, mais avec l'idée qu'on parle plusieurs langues, c'est ce que l'Éternel a fait pour brouiller les humains, avec l'idée que justement, il y a un phénomène de diffusion depuis 100 000 ans des humains, c'est des sapiens, hein, 100 000 ans, sinon c'est plus ancien, avec de ce fait, simultanément, un fractionnement, exactement ce que raconte l'histoire de la tour de Babel. Donc, par là même, je vais essayer de le développer en deux points. Ça entraîne une contradiction entre deux phénomènes géographiques de distance que les géographes mesurent, de position relative, qui sont le fait que l'on est très mobile et en même temps qu'on a besoin d'extrêmement de proximité. Alors, très mobile, bon, les humains, Justement, je vais prendre une vieille gravure pour le montrer. Les humains sont, on disait souvent homo ambulans, les humains sont justement dotés d'une grande mobilité, entre autres parce que parmi les primates, ils se sont spécialisés dans la savane arborée qui les amenait à beaucoup se déplacer. Donc on a un seul de nos membres, qui est particulièrement développé, ce sont nos membres inférieurs. Nous sommes des coureurs de fond, spontanément. Donc, nous marchons, par exemple, il suffit de 4 ans, ça a sauté, le premier terme, 4 ans et 4 mois pour faire le tour de la Terre en marchant à 25 km/h. Pendant 25 km, pardon, pas enfin 5 km heure, personne ne le fait, mais quelques kilomètres heure, mais en faisant 25 km chaque jour. Ce qu'un marcheur honnête, je vous rassure. Donc, ce qu'un marcheur honnête peut faire, bien sûr, il n'existe pas de route circumterrestre, c'est un calcul parfaitement abstrait. Ça montre aussi que la Terre n'est pas si grande, d'ailleurs, mais ça veut dire qu'effectivement, la diffusion humaine est biologiquement tout à fait compréhensible. Sauf qu'il y a une très grande diversité de milieux et que biologiquement, nous ne sommes guère adaptés qu'à la savane arborée, qui est le milieu d'origine des sapiens, donc un milieu chaud. C'est-à-dire que si quelqu'un, qu'un humain sans aucune protection qui aurait passé la nuit dernière à Paris, il serait probablement mort ou en tout cas il ne serait pas en bonne situation. C'est pour ça que quelque chose qui est lié à cette mobilité, c'est peut-être parce que j'ai été élevé par une grand-mère couturière, mais j'ai mis une aiguille à chat. Alors cette aiguille à chat a une particularité, elle a 20 000 ans. Elle est en os, elle a pu être préservée, il y en a certainement de plus anciennes mais qui ont disparu. Et elle montre que l'on pouvait coudre, c'est-à-dire que l'on pouvait faire des vêtements ajustés. Donc, évidemment, l'exemple que je vous prends est un exemple beaucoup plus récent, puisque c'est Ötzi, Hibernatus, l'homme qu'on a trouvé dans un glacier au nord de l'Italie, mais qui nous a laissé toute sa vêture avec 3 couches superposées et qui lui permettait de se promener à 2000 mètres sur un glacier en plein hiver. Il montre la qualité, la complexité de la couture de l'époque. Donc on peut remonter dans le temps sans ces vêtements ajustés, la diffusion dans des milieux froids, et par exemple le passage par la Béringie, par le détroit de Bering émergé pour peupler l'Amérique, aurait été impossible. Donc l'ubiquité des humains, c'est d'être possible de passer, et même de vivre, dans des milieux qui ne sont pas du tout le milieu d'origine de la savane arborée. Pour ça, il faut évidemment aussi une autre protection, un autre milieu artificiel qui est le logement, et bien sûr, depuis au moins 600 000 ans, la domestication du feu. Donc à partir de là, vous avez la possibilité, l'ubiquité, de vivre dans tous les milieux possibles. C'est quelque chose qui est le propre des humains. Qu'aucune autre espèce, sauf bien sûr les commensaux des humains, mais là c'est les humains qui sont le milieu, c'est les sociétés humaines qui sont le milieu, c'est des cafards ou des puces ou des rats, c'est quelque chose qui justement a permis cette dispersion. Alors dans la dispersion, on a évidemment, donc je l'ai pris, la plupart des cartes que vous allez voir, je ne les cite pas, sont tirées de mes atlas, les sapiens qui se sont diffusés jusqu'il y a 60 000 ans dans tout. Moi, j'aime bien dire l'Euphrasie pour éviter l'expression ancien monde, mais bon, disons l'Europe-Afrique-Asie. Depuis 60 000 ans, il y a aussi une diffusion en Australie, ce qui a supposé quelques passages maritimes. Et d'autre part, depuis au moins 38 000 ans, une diffusion en Amérique. Donc, vous avez tous les milieux, toutes les terres émergées, à quelques îles perdues près et à l'Antarctique près, jusqu'à une période très récente, vous avez des humains partout. Mais cette maîtrise, cette diffusion à l'ensemble de la surface de la Terre, auquel il faut compléter la dernière phase de diffusion qui est dans le Pacifique, les Polynésiens, mais ça c'est depuis 2000 ans à peu près, c'est très récent. Vous avez donc cette étendue des humains sur toute la surface de la Terre, c'est quelque chose qui entre en contradiction avec l'autre distance, que je résumerai dans une expression, la nécessité d'avoir des proches, un terme qui parle évidemment aux anthropologues, à la parenté, à l'étude de la parenté, mais qui parle tout autant à la proximité géographique. Alors, pour une raison qui est très simple et qui est là, le bassin de l'humain, et d'ailleurs plutôt de l'humaine, a évolué en fonction de la station debout qui permet la marche que j'évoquais tout à l'heure, de telle manière que l'accouchement, pour aller très vite, soit de plus en plus difficile. Rien à voir avec celui des autres primates. Résultat, ben voilà. Le petit humain, il est tout simplement un prématuré, un grand prématuré. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, d'une petite gazelle qui va pouvoir courir quelques minutes, après sa naissance et qui permet à l'espèce des gazelles de survivre, puisque c'est en courant plus vite que les prédateurs qu'elles s'en sortent, eh bien, le petit humain, il en est bien incapable avant très longtemps. Et bien d'autres choses, bien sûr, dont il n'est pas capable. Le résultat, c'est qu'il a constamment besoin d'adultes. Remarquez d'ailleurs que parmi les mammifères, les humains sont les seuls à avoir, à élever, à garder près des adultes, plusieurs portées en même temps. Alors, des frères et sœurs, hein, bien sûr, on ne dira pas des portées. Vous voyez, donc on peut avoir des familles nombreuses, bon, celle-ci est purement humoristique, mais vous avez cette particularité qui fait que l'on a besoin de regroupement. Donc, besoin de proximité et en même temps grande diffusion. D'où, je l'illustre par une carte des langues, à un moment où les langues ont été les plus diverses possibles, c'est-à-dire en l'occurrence avant les connexions réalisées, les grands voyages européens réalisés à partir du 15e, 16e siècle. Vous avez là, et là les langues, bon, le nombre des langues va régresser, mais le nombre de langues n'a jamais été aussi grand, on estime à 17 000, mais enfin c'est un décompte complexe, qu'au 15e siècle. Donc c'est là où on a le maximum de fractionnement. Alors, le résultat, c'est que les sociétés sont bien aussi diverses, pour reprendre le petit schéma que j'avais fait tout à l'heure. Mais en même temps, remarquons une chose, c'est que dans la diffusion sur Terre, eh bien, ces sociétés ne sont pas situées de la même façon les unes par rapport aux autres. Et il y en a qui ont beaucoup de voisins, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont pratiquement pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas sans importance, parce que j'aime bien, et pour moi, ça résume presque l'idée de géohistoire, de dire qu'on a l'histoire pour partie de ses voisins. Et les voisins, ben, ils ont aussi des voisins. Donc on a pour partie l'histoire des voisins de ses voisins. Donc je m'en reste là, mais vous avez là quelque chose qui est une évidence très simple, mais qui tient compte de la position relative des sociétés les unes par rapport aux autres, au sens qu'une histoire est une histoire voisine des autres. Et donc on ne peut comprendre un processus historique qu'en fonction de sa géographie, c'est-à-dire des voisinages qu'elle connaît avec d'autres processus historiques. On le connaît par, bien sûr, des invasions, des innovations, des pandémies. On va pouvoir l'illustrer. Le résultat, j'en reste encore au XVe siècle, avant qu'il y ait des connexions européennes, vous avez ici des types de sociétés qui sont extrêmement diverses et variées. Elles n'ont jamais sans doute été aussi diverses et variées. Le singulier pluriel n'a jamais été aussi grand qu'au XVe siècle. Vous voyez, si je résume ma petite légende, c'est tout simplement la différence entre les types de densité des sociétés denses et éventuellement voisines d'autres sociétés denses, qui évidemment n'est pas sans importance, et d'autre part, des sociétés plus ou moins reliées les unes aux autres, on dirait plutôt aujourd'hui connectées. Donc vous avez des sociétés très denses et connectées, mais aussi des sociétés peu denses et très connectées. On peut y revenir. Là, vous voyez, dans la partie qui est à gauche, vous avez des sociétés qui sont, en bas à droite, pardon, vous avez des sociétés qui sont très peu denses, des sociétés d'éleveurs, centrées sur l'animal, j'aime bien appeler des sociétés à sabots, plutôt qu'à racines, des sociétés à pattes ou à racines, si vous voulez. Ces sociétés qui sont plus mobiles, qu'on appelle généralement des nomades, mais c'est une expression que je n'aime guère. Donc, vous avez ces sociétés-là, sont des connectrices, ce sont les sociétés caravanières, c'est les mongoles, si vous voulez, en d'autres termes, pour prendre les plus connus. Elles sont peu denses, vous avez d'autres sociétés peu denses, mais isolées, qui seraient plutôt des chasseurs-cueilleurs, le comble étant, au XVe siècle, qu'on voit sur cette carte, les aborigènes australiens. Voilà. Alors, ça me semble une situation d'ordre général qui fait que comment réfléchir à l'histoire des Mayas, des aborigènes australiens ou des Chinois sans se demander avec qui ils seront constamment en connexion ou, elles-mêmes, quelle est l'histoire de ces connexions. Mais depuis une quarantaine d'années, eh bien, le phénomène s'est un peu différencié parce que jusque-là, alors je vais être très caricatural et c'est évidemment bien plus complexe, on était dans un paradigme qu'on peut qualifier de modernité, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé de post-modernité. Bon, je ne vais pas discuter, je les prends parce que tout le monde les connaît, ces termes. Pour la bonne raison, c'est que je le daterai d'autour de 1980 pour aller vite. On est, pour quelqu'un de nos générations, ça signifie que ce n'était pas ainsi du temps où nous-mêmes étions étudiants. On était dans une logique où la temporalité, l'historicité, la succession étaient l'élément central par rapport à la position relative, la juxtaposition, si vous préférez l'histoire plutôt que la géographie. Je veux dire par là que ça se manifeste par l'usage du mot « mondialisation ». Il apparaît, et Jean-Robert Pitt l'a rappelé, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, le mot « mondialisation » apparaît Il apparaît dans le Larousse en 1980. Même chose dans le Robert. Et Globalization, c'est pareil, à peu près. Le mot APA était dans le vocabulaire du journalisme économique. C'est de là dont il vient. Alors, comme j'ai un de mes doctorants, un ancien doctorant, qui est un passionné de chercher la première occurrence, il a trouvé le mot mondialisation dans un texte de 1904 dans le Figaro, sous la plume de Pierre de Coubertin, ce qui n'est pas tout à fait surprenant. Alors, c'est purement anecdotique. Hein. Je vous ai mis la citation qui est l'avant-dernière phrase de l'article. On le revoit, par exemple, aussi réapparaître en 1964 dans un titre du Monde, bon, qui parle c'est le début du Kennedy Round. Donc, c'est anecdotique. Mais le terme, si on le comprend, ce néologisme, il n'est pas d'usage courant, alors que, depuis 80, il est devenu une tarte à la crème. Donc, vous avez là quelque chose qui est ce que j'appelle une évidence du monde, c'est-à-dire le fait qu'on a pris conscience largement dans les pays anciennement développés, si je voulais être brutal pour le dire, je dirais que les autres ne sont pas forcément des « nous » en retard, des sociétés comme la nôtre, mais qui sont appelées à évoluer comme la nôtre. Et pour moi, l'archétype, d'ailleurs, c'est le modèle de la transition démographique dans ce genre de choses. Et de ce fait, on fait peu le rapprochement, alors que chronologiquement, c'est parfaitement synchrone, avec justement cette idée de postmodernité que j'évoquais il y a un instant, de déconstruction intellectuelle, de fin du grand récit, c'est-à-dire l'idée qu'un modèle évolutionniste, qui peut être discuté, bien sûr, et qu'il était abondamment, ben, ce n'est pas la seule manière de faire. Et justement, la conscience du monde et le fait de se penser, de classer, d'organiser les sociétés en termes d'évolution, c'est quelque chose qui n'est plus évident. Et pour moi, ça correspond bien à justement cette nécessité aujourd'hui de ne penser cartographiquement, d'avoir une pensée cartographique et pas simplement une représentation cartographique de l'évolution de l'histoire des sociétés. Je ne suis pas un fan de Lyotard, hein, mais si j'ai mis ça, mais c'est parce que c'est justement là où la notion de déconstruction et de postmodernité a été évoquée en 79. Vous voyez, c'est la date qui m'intéressait. Alors, je vous rappelle que postmodernité, c'est d'origine, c'est la rupture au départ avec l'architecture, hein, c'est un terme d'architecture, c'est une rupture avec l'architecture moderne, avec Le Corbusier, avec la ligne droite, hein, avec le cube, avec la formule. Donc là, on en a une caricature, on pourrait dire. Et qu'on est tout simplement, bah, par exemple, la caricature intellectuelle était Rostov, hein, c'est-à-dire l'idée du take-off, hein, de l'évolution, et que toutes les sociétés, ce qu'on voit dans le tableau qui a longtemps sévi dans la plupart des manuels scolaires, c'est que toutes les sociétés devaient passer par les mêmes étapes de chasseurs-cueilleurs, d'agriculteurs, de révolution industrielle, etc., etc. C'est l'idée du développement. Et que, de fait, on pensait intellectuellement les sociétés dans des termes temporels. Le mot de développement, c'est-à-dire sous-développé, en voie de développement, qui date de 1947, hein, de la Banque mondiale, eh bien, c'est une expression qui est temporelle. Et remarquez que c'est en 80, avec le rapport Brandt, qu'on a substitué progressivement à cette opposition développée-sous-développée l'expression purement spatiale, non temporelle, de Nord-Sud. Donc voilà, je rassemble évidemment ce qui me permet de conforter ce changement, et c'est pourquoi justement cette pensée cartographique prend un sort. Donc historiquement, vous voyez, si je prends les quatre vieilles, comme on dit en France, historiquement on est bien dans un modèle qui n'a rien d'universel, on s'y heurte constamment quand on sort d'Europe, si j'ose dire, et donc qu'on a conforté au 19e et qu'on a vu comme une évolution linéaire. Que ce soit une vision libérale comme celle de Rostov que j'ai évoquée maintenant, ou que ce soit le même pensée évolutionniste issue des Lumières, issue de la modernité du XVIIIe siècle, comme on peut refaire quasiment les quatre vieilles évolutionnistes, même s'il peut y avoir des fois des doutes ou des hésitations, par exemple, avec l'idée que ce n'est pas forcément la même chose ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, était évidemment un modèle indépassable. Hein. Jusqu'aux années 70, on était tous là. Par exemple, si on veut classer des objets, eh bien, s'ils sont antérieurs au début du, disons, romantisme, enfin, jusqu'au romantisme, ils seront au Louvre. S'ils sont entre 1848 et 1920, ils seront à Orsay. Si ces objets sont du XXe siècle, ils seront à Beaubourg. Et on a bien toujours notre modèle évolutionniste. Oui, mais il y a les autres. Donc là, je vous mets Branly. On a bien effectivement le problème de géographie de ce genre de choses qui n'est pas simplement le classement temporel. Je ne développe pas, mais la muséographie est absolument passionnante, hein, pour voir ces logiques de classement des objets sociaux. Ce n'est pas si simple. Hein, les antiquités orientales, voilà un terme où un mot temporel et un mot spatial sont associés. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est effectivement en plein mouvement. Donc, ce changement de l'idée temporelle s'est d'ailleurs accompagné, dans les années 80, d'une évolution de la représentation du monde. C'est-à-dire, là, je rentre précisément dans notre domaine de géographe, du planisphère. Donc, le planisphère, évident, j'en ai pris un bien caricatural, un Mercator particulièrement bien centré avec cette division du monde, où il y a une perpendiculaire à l'équateur qui est le méridien de Greenwich. Je peux vous dire que dans toutes les enquêtes que l'on a pu faire, j'en ai fait quelques-unes, quand on demande à la plupart des élèves ou du grand public pourquoi le méridien zéro est le méridien de Greenwich, la réponse quasi unanime, encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est au milieu. Donc, vous avez là quelque chose qui est évidemment issu, puisque la force des images, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Alors, à partir justement de la fin des années 70, eh bien, alors, ça change. Mais je vous ai mis une citation, j'ai mis très peu de texte dans mes images, mais celle-ci, qui est une citation de la deuxième génération des encyclopédistes, c'est quelqu'un qui nous montre justement que l'espace, la surface de la Terre, est pensée comme du temps. C'est-à-dire que plus on s'éloigne du cœur de la civilisation, pour lui évidemment c'était l'Europe, eh bien plus on remonte dans le temps. C'est-à-dire que la carte s'explique d'abord par la répartition temporelle des processus, c'est en soi un modèle de diffusion. Donc on a dans les années 70 une carte qui devient à la mode, la Peters, qui rétrécit et étire, enfin modifie pour être conforme aux surfaces, et qui est tombée de... C'est une mode qui a largement disparu. Vous avez, si je prends cette carte, qui n'a de sens qu'en véritablement en Australie, et qui est une carte australienne, c'est parce qu'elle est de 79, toujours au même moment, et elle est très simple, c'est une Mercator d'ailleurs, simplement, elle est orientée au sud, au lieu du nord, et elle est centrée sur l'antiméridien. Donc le résultat, l'Australie est au centre et le monde entier est en couronne autour. Donc pour les Australiens, évidemment, c'est très agréable parce qu'ils en avaient marre d'être en bas à droite. Et donc vous avez là, effectivement, c'est ce moment d'évolution. Et il y a beaucoup d'autres exemples. J'ai par exemple, mais je ne veux pas vous l'infliger, regardez les fonds d'écran des journaux télévisés. On a souvent des planisphères et l'évolution des planisphères est très amusante. Je veux dire que les plus récents tournent. Alors, résultat, pour illustrer cet élément de type géo-histoire, eh bien, je trouve qu'il est bon de poser des questions qui peuvent sembler à l'envers. C'est-à-dire que prenez un terme spatial, Europe, et je me demande quand peut-on parler d'Europe ? Ou bien je peux poser une autre question du même type, je prends un terme périodique, antiquité, et je me demande où est l'antiquité ? Donc, à partir de là, vous déstabilisez, mais en même temps, vous enrichissez pas mal les problématiques que l'on peut avoir. Alors, pour répondre à l'Antiquité, vous voyez, sur cette carte qui se situe au premier, qui simplifie, elle n'est pas de moi, celle-là, vous avez une carte qui nous montre l'état des sociétés au premier siècle avant notre ère. Où est l'Antiquité ? L'Antiquité, elle est d'évidence dans le bassin méditerranéen et éventuellement à proximité, puisqu'il y a des interactions de connexion extrêmement forte chez les Germains, chez les Parthes, éventuellement même dans le monde saharien. Mais pas chez les Mayas, et peut-être pas même chez les Han, ou un peu chez les Han, mais peut-être pas. Tout dépend du degré de connexion des processus historiques. Donc, notre antiquité, elle est là, plus précisément, elle est là. Donc, mon antiquité, si j'ose dire, c'est une région du monde, c'est une partie du monde. Ce n'est pas seulement un découpage temporel, mais c'est aussi un découpage temporel, mais tel qu'il est localisé. Donc, je ne peux n'avoir que des périodes-régions. On est simultanément, et de ce fait, est-ce de la géographie ou est-ce de l'histoire ? Pour moi, c'est de la géohistoire. Voilà, j'aime beaucoup, je rends hommage à quelqu'un de bien oublié, qui est Henri Pirenne, qui était lui-même un maître de Brunel. Et Pirenne, c'est celui qui avait dit, qui avait, dans Mahomet et Charlemagne, dans un article puis un ouvrage posthume, fait remarquer qu'en fait, il y a un moment où la Méditerranée, alors, il l'avait fait de manière brutale, on l'a beaucoup critiqué ensuite sa démarche, mais en gros, montrer les baisses de circulation en Méditerranée vers le 6e, 7e siècle, le moment où s'émancipent l'Est et le Sud de la Méditerranée, où se construisent un monde musulman, et au moment s'émancipent tout autant, au nord de la Méditerranée, quelque chose qui est un monde chrétien, et surtout chrétien latin, qui devient l'Europe. Donc là, oui, on peut parler d'Europe. Je peux répondre à la question, quand est l'Europe? Donc, vous avez ici des exemples qui nous permettent de créer des pensées, nos catégories, et éviter, évidemment, de le faire dans un évolutionnisme qui est celui plus global. Alors, si j'en reviens un instant, je ne ferai pas d'autre fois ce genre de doublure, à la carte du XVe siècle, vous avez quelque chose qui est aussi une carte de densité, c'est l'ensemble des sociétés les plus denses, hein, les plus à droite, en haut à droite de ma légende, qui sont ici. Vous voyez ce que je vais appeler l'axe de l'ancien monde. Vous avez ici des sociétés qui, depuis des millénaires, le roi Gouran les décelait déjà dans la préhistoire récente, néanmoins, vous avez là un axe de sociétés qui sont toutes en interconnexion depuis des millénaires et qui représentent d'abord, parce qu'elles représentent de très fortes densités. Aujourd'hui encore, mais c'était vrai il y a 2000 ans, il y a 4000 ans et plus encore, s'il y a à peu près les trois quarts des humains là, dans cet axe. Donc vous avez là quelque chose où se sont passées des choses parce que les fertilisations croisées, positives ou négatives, ont été maximales. Aussi, j'ai placé les faibles densités des connecteurs, des peuples à pattes, hein, des cavaliers des steppes, qui participent à cet ensemble de connexions et qui jouent un rôle, on va y revenir dans un instant. Voilà, inversement, les sociétés américaines, australiennes, polynésiennes, évidemment, elles sont un autre monde. Ce qui fait que dans un livre que Jean-Robert Bitte n'a pas cité et qui est un bouquin que j'ai fait il y a un an et demi, en 2023, il s'appelle Géohistoire, justement, j'ai fait un chapitre où j'ai essayé de m'intéresser aux histoires qui n'étaient pas connectées à celles de l'ancien monde. Aux histoires des Amérindiens, des Polynésiens, des Australiens, mais aussi, c'est plus complexe, de l'Afrique subsaharienne. Et vous avez là d'autres histoires avec d'autres processus historiques qui ne collent pas forcément avec les notions, les normes, le vocabulaire que l'on a forgé pour l'ensemble des sociétés de l'axe de l'Ancien Monde, du monde romain au monde chinois et à leurs descendants. Vous voyez, qui sont au contraire représentés sur cette carte. Et j'ai volontairement pris un fond de planisphère assez ésotérique pour nous, qui sont justement pas du tout le mercator habituel. Donc voilà notre axe. Sur cet axe, on a là sans doute le maximum de processus historiques, j'aimerais même dire d'historicité, qui peut s'être produit. Remarquez qu'il ne faut pas oublier les contraintes du milieu qui fabriquent cet axe. Sans la discontinuité saharienne, qui n'est jamais totale, mais qui est très forte et qui représente un affaiblissement des communications très grand, sans la masse de steppes et de forêts du nord, qui évidemment, du fait du froid, des croissances vers le froid, diminue considérablement les possibilités de société, cet axe n'aurait pas cette forme, n'aurait pas ce sens. Et réciproquement, tenir compte des possibilités d'échange, à commencer par ce qui est le cœur de cet axe, c'est-à-dire le monde des moussons dans l'océan Indien. C'est là la vraie mer intérieure, c'est là le cœur, la Méditerranée, les mers de Chine et la Méditerranée n'étant que les prolongements orientaux pour les mers de Chine, occidentaux pour la Méditerranée, de ces grands axes de circulation, qui est aussi bien sûr un axe terrestre, hein, ce qu'on a appelé ultérieurement les routes de la soie. Alors, remarquez qu'à l'intérieur de cet ensemble, il y a quand même un grand facteur de discontinuité, qui est un ensemble de hautes terres. Donc, j'ai fait un peu de géographie physique, y compris de climato, avec les moussons, pour rappeler qu'il y a un certain nombre d'un champ de contraintes dans lequel se sont inscrits ces densités, qui ne correspondent en rien d'ailleurs au foyer initial de l'espèce sapiens. D'où un exemple, alors le fond de carte, monsieur, je ne vais pas vous raconter les ruées vers l'or, mais simplement pour vous dire par exemple, il y a quelque chose qui me semble une belle illustration, qui est l'invention des métaux précieux. Pour nous, il était tellement évident que l'argent, c'est de l'argent. Je veux dire par là que la conservation de la valeur se fait sous des formes d'objets fabriqués à partir de métaux rares et considérés comme précieux, l'or et l'argent, éventuellement le cuivre. Bien, c'est quelque chose qui est né, sans doute l'une des formes les plus anciennes, c'est en Lydie au VIe siècle avant notre ère, mais qui s'est très très vite simultanément développé en Perse, en Inde, en Chine. Alors, des fois, les petits ronds de métal étaient moulés, c'est le cas à l'Est en Chine, quelquefois ils étaient frappés, c'est le cas à l'Ouest, de l'Inde à la Méditerranée, mais globalement ça aboutissait à la même forme, au même objet. Et donc il y a eu une communauté sans que personne ne décide. Il n'y avait aucun pouvoir politique ou économique, il n'y avait pas une banque centrale qui a organisé cela. Mais en l'espace de 4 siècles à peu près, du 6e au 2e siècle avant notre ère, il y a une circulation qui n'existe nulle part ailleurs, où pourtant il y a des formes de monnaie. ne serait-ce que les fameux Cories. Mais vous avez là quelque chose qui illustre cette unité. Unité qui a néanmoins cette diversité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vous en donne un exemple. Pardon, j'étais encore un peu trop vite. Voilà. J'ai fait ce... Alors, cette carte n'est pas dans un de mes atlas. Elle vient d'être mise en évidence pour le public au Louvre-Lens. On a réouvert la galerie du temps. Et j'ai été chargé de m'occuper des cartes qui ouvrent. La nouveauté, c'est que maintenant, on passe par un sas cartographique pour accéder à la galerie du temps. Donc, vous avez des planisphères, et il y a entre autres celle-ci, où j'ai parlé des croyances, donc des gens plus compétents que moi ici, mais des croyances, pas que dans l'ensemble des religions, on peut le dire, avec les diversités, qui là, c'est le contraire de la monnaie, où il y a unité. Là, on a au contraire diversité, mais par le jeu des couleurs, j'ai essayé de montrer que ce qui était bleu-vert à l'est, c'est les religions du livre, à l'ouest, pardon, et à l'est, on a au contraire les religions dites orientales, l'hindouisme, et le bouddhisme qui en est issu, qui va à son tour inonder et se croiser avec confucianisme, shintoïsme, etc. Donc, vous avez là un ensemble qui, au contraire, joue sur une diversité à l'intérieur même de cet axe. Pourtant, on a une histoire commune, et ne serait-ce que pour l'illustrer, bien d'autres exemples auraient été possibles, mais l'exemple de l'Empire mongol est à la fois une illustration et un facteur extrêmement fort, puisque ça a été une explosion économique au XIIIe siècle, hein, le beau XIIIe siècle, le temps des cathédrales, hein, mais ça c'est vu de notre petite presqu'île européenne. Vous avez cet ensemble qui situe, mais dont la suite, c'est aussi une autre manifestation de ce destin commun de cet axe, qui est celui d'une pandémie, un bassin pandémique qui s'étend. Alors j'avais été très fier, la première fois c'était en 2014, de pouvoir avoir fait avec des historiens la première carte à bonne échelle, je veux dire par là à l'échelle de l'Eurasie, et non pas à l'échelle de la seule Europe, comme étaient le plus souvent les cartes de la peste noire. Donc, on a là quelque chose qui va ensuite s'étendre au reste du monde, d'ailleurs, mais qui représente justement ce processus historique lié à cette configuration géographique que l'on a vu antérieurement. Et on peut parler d'une première forme de mondialisation avec des échanges, des centres, des pôles, etc. Mondialisation qui pose problème, qui n'est pas suffisante, d'où la recherche d'autres circulations, et au XVe siècle, à l'est, c'est les grands voyages de Cheng He, mais aussi à l'ouest, les acteurs vont chercher de trouver d'autres routes maritimes. Donc, je ne vais pas développer les voyages de Cheng He, mais je vous rappelle que c'est le moment où les Européens, alors là, c'est une carte que j'avais faite pour le sucre, parce que c'est une histoire, vous allez voir, qui a une petite importance par la suite. Vous avez ici les épices, en fait, puisque le sucre était là. L'épice la plus recherchée au XVe siècle, vous avez les Européens ne peuvent pas faire pousser de sucre en Europe pour des raisons climatiques simples. Et ce manque, c'est à la fois cette demande qui a été acquise de sucre très forte depuis 2-3 siècles, d'une part, et d'autre part, cette impossibilité de cultiver la canne à sucre en dehors de quelques îles méditerranéennes et encore, fait que les Européens se sont mis à l'eau. Et le résultat, c'est ce développement de ce qu'on appelle parfois la Macaronésie, Madère, les Açores, les Canaries, et puis les îles du Cap-Vert. Vous avez là une première poussée européenne, qui double d'ailleurs la surface maritime de l'Europe, au XVe siècle, bien avant Christophe Colomb, qui lui-même est issu de cette poussée, puisqu'il a vécu 20 ans à Madère, et il a appris la circulation des vents, puisqu'il ne s'est pas trompé, non seulement à l'aller, mais au retour, dès le premier voyage. Donc, vous avez là quelque chose qui résume un peu cette contrainte géographique, une Europe qui demande, une société qui demande des produits tropicaux, qu'elle appelle des épices, mais qu'elle ne peut pas produire, et qui donc va chercher à fabriquer les lieux de production. On peut le voir dans la vision du monde, car la pensée géographique qu'on peut avoir à un moment donné est essentielle. Qu'est-ce que l'Europe connaissait ? Je ne vais pas le faire, mais je peux l'illustrer par rapport aux cartes de l'époque, pensez à l'Atlas catalan, entre autres, hein, vous ne l'avez pas vu ce matin, mais c'est le grand fleuron de la BNF. Vous avez une cartographie au sens moderne du terme, c'est-à-dire un portulan dans la partie ouest, et au contraire des connaissances ponctuelles et en partie imaginées dans la partie est. C'est Marco Polo qui en est le principal fournisseur d'informations. Et puis au-delà, on ne sait pas. On ne connaît que des éléments ponctuels. Donc, le résultat, c'est que les circulations qu'il y a dans l'Ancien Monde vont être éventuellement... On va chercher de nouvelles routes pour trouver ces épices, en contournant l'Afrique, ça c'est la route portugaise, mais aussi dans le monde que l'on connaît, que l'on vient de voir, en partant vers l'ouest pour arriver immédiatement à l'est, c'est Colomb. Et vous savez que Colomb, en partant dans l'inconnu, est arrivé dans le nouveau connu. On a toute une histoire qui commence et qui nous raconte une histoire européenne. Le résultat, j'aime bien dire que c'est le deuxième voyage qui compte, parce que le voyage de Colomb, il aurait pu se produire. Il y a eu déjà des connaissances, des bateaux qui ont été jusqu'en Amérique. Ça n'a pas eu de conséquence. Ce qui compte, c'est la volonté d'y retourner, de vouloir. Et là, on y retourne parce que la question posée par Ferdinand et Isabelle au moment du retour de Colomb, c'était, première question, y a-t-il de l'or ? L'Europe déficitaire dans ses échanges se vidait de son or et de son argent. Et deuxième question, y a-t-il du sucre ? Et Colomb a triché pour la première en disant oui, et a dit pour la deuxième, je ne sais pas. Mais dans le deuxième voyage, il a emmené des plants de canne à sucre aux Antilles, et ça a marché. Mais à partir de là, c'est l'Amérique tropicale qui intéresse. Bon, ce tissage du monde que les Européens font ne peut se comprendre qu'en fonction des vents et des courants. Alors, étant donné que le temps passe, je ne vais pas vous faire un petit cours de géographie physique sur les anticyclones, le monde des moussons, bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure. Puis autour des anticyclones, vous avez les circulations, vous voyez, qui se font. Je vais les faire rapidement. Là, c'est la route des Indes, ça, c'est les routes transpacifiques. Le résultat, c'est la maîtrise européenne sur l'Amérique tropicale, la catastrophe démographique qui en résulte en Amérique. Le résultat, c'est la régression de la population et l'augmentation de la forêt en Amérique. Et ce qui se voit dans l'histoire du CO2, puisque dans les temps modernes, comme on dit, il y a eu une diminution, on le voit dans les carottes dans l'Antarctique, les carottages faits dans l'Antarctique, une diminution du CO2 dans l'atmosphère pendant les 16e, 18e siècles, jusqu'à la révolution industrielle. Oh là là, ça remonte vite. Le résultat, c'est que, on en parlait à table tout à l'heure, aujourd'hui, il y a l'une des archéologies les plus dynamiques au monde, et celle de l'Amazonie. Alors qu'on pensait jusqu'au milieu du XXe siècle qu'on avait une forêt vierge, il s'agit en fait d'un monde qui était largement cultivé, dont on découvre des cités, dont on découvre des terres cultivées, s'avère être d'ailleurs l'origine de plusieurs plantes qui jouent un grand rôle, par exemple le cacaoyer. Voilà, le résultat de cette aventure rapidement brossée, c'est le fait que le monde a été créé par les Européens et colonisé par les Européens, sous un processus. Regardez, je me suis amusé à faire une carte qui n'est pas par pays européen, par empires coloniaux, mais de dire, quelles régions du monde n'ont pas été à un moment ou un autre colonisées par les Européens, en dehors, bien sûr, des trop gros morceaux, ça c'est la Chine, ou des interfaces entre deux impérialismes, comme l'Iran ou le Siam, pratiquement tous, à l'exception d'un pays qui a suivi le modèle européen, c'est-à-dire le Japon, et donc colonisé la Corée ou Taïwan. Donc voilà, vous avez quelque chose qui laisse effectivement cet héritage qui correspond à la vision du monde de Mercator que j'avais vu, que j'avais montré d'entrée. Ça nous pose des problèmes cartographiques, à nous les cartographes, je peux vous dire, parce que, je donne un exemple, si vous me demandez une carte d'Amérique du Nord au XVIIIe siècle, là on est même au milieu du XVIIIe, au moment de la guerre de 7 ans, voilà à peu près ce que l'on va avoir avec les grands empires coloniaux. Et puis il se trouve que des travaux historiques fort intéressants depuis quelques années se sont intéressés à des structures géopolitiques amérindiennes, en l'occurrence les Comanches, mais c'est vrai aussi pour les Sioux. Et le résultat, c'est qu'on peut aujourd'hui voir une société qui était tout à fait puissante, dont on a des traces, qui était un empire cavalier. Alors les Mustangs étaient en fait des animaux venus d'Europe, mais enfin, peu importe, ils les maîtrisaient. Donc on avait un empire cavalier qui fonctionnait un peu comme un empire mongol, entre des sociétés sédentaires, qui étaient des prédateurs, qui, entre autres, rançonnaient les pueblos de l'empire mexicain, pour alimenter leur population en particulier, et qui étaient aussi des commerçants, des trafiquants. Eh bien, est-ce que ce sont les petits réseaux de forts français de la Louisiane, ou est-ce que ce sont les Comanches qui sont la bonne carte ? En fait, c'est les deux. C'est l'interpénétration des deux. Or, par ailleurs, j'étais obligé de faire une carte avec ce qu'on appelle une carte choroplète, c'est-à-dire avec un rond coloré. Là, j'ai mis des petits points pour que ça ne soit pas trop démenti. Mais la cartographie d'une structure en réseau comme un empire mongol ou comanche, c'est très difficile à faire à partir de nos traditions cartographiques qui sont des tartes terriennes, des tartes paysannes, si j'ose dire, des tartes du territoire. Donc, je suis bien obligé de faire des cartes qu'on sait lire. Donc, même si on peut faire des cartes de réseau, on est effectivement dans des petits problèmes d'écriture cartographique que l'on peut avoir par rapport au processus historique évoqué. Et je ferme cette parenthèse. Je terminerai par deux points. Le premier, c'est de dire, ben voilà, il y a quelque chose qui m'a, quand j'étais étudiant, donc dans les années 60, si je ne suis pas trop long, n'hésitez pas à m'arrêter, il y a une chose qui m'a toujours frappé, qui était le fait qu'on me parlait des pays en voie de développement. Et Yves Lacoste, à l'époque, martelait ce genre de choses, qui était un des grands éléments de pensée de l'Organisation du Monde. Et en même temps, ils étaient tous tropicaux, mais il ne fallait pas le dire. Donc, il ne fallait pas le dire, on était immédiatement attaqué pour déterminisme crasse. C'est une citation. Hein, Donc, il y a peu de géographes qui posaient vraiment la question. Olivier Dollfuss en était un. Or, je pense qu'à moins de faire un déterminisme comme des biologistes peuvent le faire, le plus souvent, le problème, semble-t-il, on peut proposer une explication par un processus géohistorique que j'ai évoqué, c'est-à-dire la quête des produits tropicaux par les Européens. Vous voyez, j'ai une question que j'aime bien poser, puisque Jean-Robert a fait la gentillesse d'évoquer le monde dans nos tasses, une histoire du petit déjeuner. Vous voyez, une question que j'aime bien poser, c'est thé, café ou chocolat? Et on peut y ajouter une question subsidiaire, avec ou sans sucre? 4 produits tropicaux. Or, c'est au XVIIIe siècle, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, au XVIIIe siècle, vous avez un beau tableau de Boucher au Louvre qui s'appelle « Le déjeuner ». Il n'est pas encore petit, hein, c'est un siècle plus tard qu'il devient petit. Mais le déjeuner, et il est en train de boire du chocolat. Il y a une théière également. Et donc, on a inventé ce repas du matin avec du sucre. Alors, évidemment, on fait le très riche hein, en 1738, au moment du tableau de Boucher, mais même au moment de la Révolution française, c'était devenu banalisé. Donc, on a à ce moment-là une énorme consommation de produits tropicaux qui se traduit aussi par un processus qu'on aurait appelé naguère de sous-développement. Aujourd'hui, les productions de café, de thé et de cacao sont dans les régions tropicales, c'est très net en particulier pour café et cacao, mais sont consommées, on dirait aujourd'hui, au nord. Ce processus, c'est vrai pendant tout le temps long, depuis le XVIe siècle, avec une poussée particulièrement forte au XVIIIe. Réciproquement, et d'autre part, ça se traduit par des mouvements de main-d'œuvre forcée. On connaît les traites négrières transatlantiques, bien sûr, mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que j'ai voulu faire un planisphère, les coulis du XIXe siècle pour les plantations de thé anglaises qui n'ont rien à envier, en dramatique par rapport aux traites négrières, et même, au début du XXe, des traites dans le Pacifique. Le résultat, cette carte, je peux vous dire que je ne l'ai pas publiée facilement, que mes partenaires qui sont la revue L'Histoire ont beaucoup rechigné, parce que cette carte dit, vous voyez, au milieu du XXe siècle, si vous superposez régions chaudes et régions riches, régions pauvres, vous allez avoir quelque chose qui coïncide très bien. Depuis, ça s'est beaucoup atténué, mais pas que, quand même. Ça reste, il y a malheureusement de beaux restes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pourrais faire l'histoire réciproque. Les Européens, jusqu'au XIXe siècle, ne s'intéressent pas aux régions tempérées et froides. Ils s'en fichent, parce que c'est comme chez eux. Donc on peut y envoyer quelques minorités religieuses, des Pilgrim Fathers ou des excédents démographiques, mais la seule chose qui est intéressante dans les régions froides, ce sont les fourrures. Bon, c'est quand même relativement limité. Alors inversement, au XIXe siècle, ce sont les régions qui deviennent peuplées par les excédents démographiques européens, c'est la construction d'un Occident à ce moment-là. Voilà, donc c'est difficile de dire que ce n'est pas de la géographie ce que je vous fais. Donc vous avez deuxième et dernier point, la manière dont se construisent le pluriel, les sociétés au pluriel, les territoires des sociétés, eh bien, est constamment contradictoire avec l'interconnexion qu'il y a de ces sociétés et la création d'un niveau mondial de plus en plus fort. Vous voyez, quand on fait l'histoire du XIXe siècle, autrefois, quand on la faisait dans les manuels, il y avait à la fois une carte qui nous montrait les mouvements des nationalités, les printemps des peuples, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des pièces du puzzle, et puis la révolution industrielle, la réduction de la distance, la simplification monétaire, etc., etc., et l'unité économique. Les deux étaient simultanés. Le processus n'a pas cessé, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais il n'a pas cessé. Mondialisation et multiplication. Donc on a bien ici une opposition entre l'international et le mondial, entre ces deux éléments. Vous voyez, le nombre d'États, si on peut le cartographier, n'a cessé d'augmenter, et ne va cesser d'augmenter. Le résultat, et on peut d'ailleurs en prévoir un certain nombre, hein, cette carte est de 2011, ce qui fait que le Soudan du Sud est virtuel. Depuis 2011, il a existé. Mais il y en a d'autres, hein, ne serait-ce que, je sais pas, la Corse, la Catalogne, par exemple, qui pourraient exister. Résultat, eh bien, un calcul que personne ne fait généralement, mais qui est très élémentaire, divisez la population mondiale par le nombre d'États. Ben, vous avez quasiment une constante. Alors que la population ne cesse d'augmenter, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez qu'en 1930, il n'y a 40 États, et ça nous fait une cinquantaine de millions. Avec les décolonisations, la population moyenne diminue. Avec, ça augmente peu, parce qu'on a encore ensuite d'autres processus, à commencer par la chute de l'Union soviétique. Vous voyez, on est dans un processus plutôt de diminution, malgré l'augmentation de la population. Bon, le résultat, c'est que l'international est de plus en plus important et que la possibilité d'une action mondiale est de plus en plus difficile. Juste deux images qui sont à la fin de l'Atlas historique mondial. D'un côté, on est dans un monde de plus en plus connecté, les câbles Internet en sont une bonne illustration, mais aussi on est dans un monde de plus en plus fractionné, les murs en sont une illustration. Et on a de plus en plus de murs à des frontières. Donc on est à la fois dans plus de connexions et plus de fractionnements. Voilà, donc j'aime bien terminer par une citation de mon complice, mon vieux complice Jacques Lévy. Le monde n'a pas d'ennemis parce qu'il n'y a pas de martiens pour créer une unité contre les martiens et qui permettrait aux sociétés de serrer les rangs et que l'union, de réaliser que l'union fait la force. Mais qu'est-ce qu'on a des problèmes? Et c'est pour ça que j'ai mis une carte du réchauffement des océans. Et je vous remercie sur cette chaude remarque de votre attention.
Bien, très bien, très bien. Merci, cher Christian, de cette gymnastique au grand galop, à travers le temps, à travers l'espace, une vision très, très agile de l'histoire et de la géographie de notre monde.